La semaine dernière, mon épouse et moi, on avait notre culte en commun le matin. Et puis, dans ce temps que nous prenons régulièrement, nous étions en train de lire Timothée, les deux épîtres à Timothée, puis l'épître à Tite. Et on a été interpellés par le nombre d'interpellations que l'apôtre Paul lance à Timothée et à Tite. Un nombre impressionnant d'encouragements. Alors, on ne va pas tous les lire là ce matin parce que la liste serait longue. Mais prenez le temps de souligner dans votre Bible le nombre de fois où Paul donne un encouragement, voire un ordre, voire une injonction à ce jeune prédicateur. Et alors que nous étions en train de lire ça, il y a un truc qui a attiré notre attention. Et puis on s'est dit, mais et si Timothée finalement réagissait négativement par rapport à tout ce que l'apôtre Paul lui donnait comme encouragement? Et s'il prenait au contraire le contre-pied? Qu'est-ce qu'il se serait passé? Et on s'est rendu compte que nous aussi, de notre côté, ça nous arrive. Lorsque le Seigneur nous interpelle sur certaines choses, non pas forcément de prendre le contre-pied, mais en tout cas de présenter toutes sortes de prétextes ou d'excuses. Dieu nous dit « fais ceci » et on fait exactement l'inverse. Ou alors on dit « non mais Seigneur, mais tu comprends quand même, etc. » Et puis ça a travaillé notre esprit pendant ce temps où on méditait les Écritures. Et on a relevé ensemble quelques prétextes qu'on présente parfois au Seigneur pour s'excuser ou ne pas faire ce qu'il nous demande justement de faire. Il y a parfois, on réagit de la manière suivante en disant « Oui, mais Seigneur, tu sais, c'est humain. Nous avons péché, c'est vrai, ou un tel a péché, mais c'est vrai, c'est humain. Mais c'est tellement humain que Jésus est mort pour ce péché. » Et plutôt que nous repentir, on préfère avancer un argument qui semble couvrir la faute qui a été commise, alors qu'en fait, il n'y a que le sang de Jésus qui couvre la faute qui a été commise, et pas notre argument. Et puis, dans d'autres circonstances, on dit « Oh oui, mais si ça ne se produit pas, c'est parce que Dieu est souverain, il ne le voulait pas. » Pardonnez-moi. Tout ce qui ne se produit pas dans nos vies, ce n'est pas parce que Dieu forcément ne le veut pas. C'est parce que parfois, nous hésitons à le faire ou à le vivre. Et puis, je me souviens aussi de cet autre prétexte ou de cette autre excuse que j'ai entendue une fois lors d'une étude biblique. À l'époque, lorsqu'on étudiait les dons spirituels et puis plus particulièrement la vie de Moïse, alors que Moïse était appelé à devenir ce grand leader, ce grand libérateur d'Israël, quelqu'un un jour a dit la chose suivante lors de cette étude biblique, « Mais de toute façon, Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qu'on ne peut pas faire. » Et ça, c'est une formidable excuse, un formidable prétexte pour refuser la croissance, pour refuser l'évolution. Une saine croissance, une saine évolution. Et la Bible, curieusement, est pleine d'hommes et de femmes qui, lorsqu'ils ont été interpellés par Dieu, ont aussi eu leur prétexte. J'ai parlé de Moïse, vous connaissez la rencontre de Moïse au buisson ardent et la liste de prétextes et d'excuses qu'il a présentées à Dieu. Mais je me suis penché sur un autre personnage que vous connaissez tout aussi bien que moi. Il s'agit de Gédéon. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, et là, je demanderai peut-être à Jean-Paul si tu veux bien lire les versets 11 à 18. Juges 6, versets 11 à 18.
Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment et au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian !» L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre, Manassée, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » On y est, hein? On se reconnaît aussi. L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Jésus lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes.
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce que Dieu dit sur la vie de cet homme, sur la vie de Gédéon. Mais dans l'état dans lequel il est, il n'est pas capable d'accueillir cette parole. J'aimerais juste dire une chose, et elle a du poids pour chacun d'entre nous, pour vous comme pour moi, pour toutes les personnes qui sont dans cette salle de culte ce matin. Dieu prononce les mêmes paroles de grâce et d'encouragement sur chacun d'entre vous. L'Éternel est avec toi, vaillant et héros. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça qu'il te considère. Tu es devenu son fils, il t'a racheté de tes péchés. Tu es devenu sa fille, il t'a élevé, il t'a couronné de grâce, il t'a déjà glorifié, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, et il dit sur toi ce matin, l'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Mes amis, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que vous vous pensez de vous-même, c'est ce que Dieu dit de vous qui compte. Ce qui compte, ce ne sont pas les impressions que vous avez sur vous-même, votre identité, ceci qui ne va pas, cela qui ne va pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous sur vos vies qui compte. Et si tu crois plus ce que Dieu te dit, mon ami, tu es dans le chemin de la bénédiction. Si tu écoutes les mensonges que tu crois sur toi-même, tu es sur la voie de la tristesse et du malheur. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi Dieu dit-il cela à Gédéon ? Parce qu'il voit le potentiel qu'il y a dans la vie de cet homme. Il voit tout ce qu'il y a d'enfoui dans le cœur de cet homme. Dieu le voit, c'est caché, c'est bien là, mais Dieu le voit. Vous savez, Dieu a souvent une autre vision de ce que nous avons de nous-mêmes. Ou parfois même, Dieu a une autre vision de ce que les autres ont de nous. Et tant mieux. Parce que la perspective de Dieu est toujours tellement plus juste que la nôtre ou que celle des autres. Et Dieu sait tout le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu voit toutes les capacités qui sont en toi. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne change rien. Dieu te voit comme un vaillant héros. Attention, pas comme un vaillant Zorro. Il ne s'agit pas là de prononcer une parole de triomphalisme, mais de vaillant héros. Tu es un héros, une héroïne aux yeux de Dieu. Dieu voit, d'une manière générale, beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus profondément que nous. Et ce matin, j'aimerais nous amener les uns et les autres à ne pas nous laisser limiter par la pauvre ou la petite image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'élever à un niveau qui n'est pas le nôtre, mais simplement d'harmoniser nos violons, d'harmoniser la manière dont Dieu nous voit avec ce que nous pensons de nous-mêmes. Gédéon dit, Seigneur, mais effectivement, si tu me dis telle chose, mais tu vois un petit peu la situation dans laquelle on est, où sont tous les miracles d'avant, ceux que nos pères nous ont racontés. Mes amis, ne laissez pas les circonstances dicter ce que vous êtes. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent dire ce que vous êtes. C'est ce que Dieu dit qui compte. Ensuite, il dit, et puis Jean-Paul l'a très bien imité tout à l'heure, « Mais Seigneur, ma famille est la plus pauvre, moi je suis le plus petit de ma famille, etc. » Mes amis, ne laissez même pas vos limites naturelles vous dicter qui vous êtes. Oui, vous êtes né dans un certain contexte. Oui, il y a peut-être des choses qui ont été difficiles. Oui, vous avez peut-être vécu dans un milieu qui vous a plutôt rabougri ou rabaissé ou ce que vous voulez. On est tous faits de la même manière. On est tous passés plus ou moins intensément par des circonstances difficiles. Ou bien, on a tous plus ou moins entendu des choses qui nous ont affectés. Le contexte dans lequel nous avons évolué n'a pas toujours été forcément facile. Et nous sommes entrés dans la vie du croyant et de la croyante avec des limites. Mais ce ne sont pas ces limites qui changent l'opinion que Dieu a de toi. Ce ne sont pas tes limites qui vont changer l'idée que Dieu porte sur toi. Et si Dieu dit que tu es un vaillant héros, arrête de te prendre pour un vaillant zéro. Dieu dit d'autres choses sur ta vie. Tu as une valeur à ses yeux qui est beaucoup plus élevée que celle que tu penses avoir. Et puis, il est question aussi de Madian. Ouais, mais Seigneur, tu vois, Madian nous écrase, on est entre les mains de Madian, il vient nous voler nos victuailles, il vient nous voler nos biens, Seigneur, mais ça va pas. Ne laisse pas non plus les autres dicter ce que tu es. Si tu mets ta confiance dans ce que les autres disent ou pensent de toi, je vais le dire en français courant, tu es foutu, tu es fichu, tout de suite. Encore une fois, c'est ce que Dieu pense de toi qui compte. Ce n'est pas l'opinion des autres. Si Dieu pose son regard de faveur sur toi, même si les autres ne posent pas un regard de faveur sur toi, tu as la faveur de Dieu. C'est toi qui as la faveur de Dieu. Si les autres se moquent de toi, si les autres te dénigrent, si les autres te rejettent, ben qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Toi, tu as la faveur de Dieu parce que Dieu te dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Cesse d'écouter l'opinion des autres sur ta vie. Ne te courbe pas devant ces idoles. Parfois, des contemporains peuvent devenir des idoles parce qu'on met tellement notre foi en eux qu'on croit plus ce qu'ils disent que ce que Dieu nous dit. Ferme ton oreille aux critiques. Ferme ton oreille à tout ce qui te rabaisse, tout ce qui te limite. Et écoute une bonne fois pour toutes ce que Dieu dit de toi. C'est ce que ton père pense de toi qui compte, pas ce que les autres pensent de toi. Ton identité, ta destinée, ton potentiel, ton présent, ton futur, tout cela, c'est entre les mains de l'Éternel et pas entre les mains des autres. Et heureusement pour toi. Quelqu'un a-t-il vu ici le film Les chemins de la destinée ? Pardon, les chemins de la dignité, devrais-je dire. Quelqu'un a-t-il vu ce film ? En anglais, c'est Les hommes d'honneur. C'est un film qui a été tourné sur l'histoire vraie d'un homme qui avait un rêve. Il avait un rêve profond au fond de son cœur. Il voulait devenir scaphandrier dans la Navy américaine. Et l'histoire se passe peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas juste après que les États-Unis aient déclaré que le racisme était interdit dans le pays. Cette ségrégation raciale prenait enfin, légalement en tout cas, sa fin. Cet homme cultivait ce rêve depuis qu'il était tout petit, mais voilà qu'il faisait face à des obstacles de taille. C'était un homme pauvre. Ses parents étaient de pauvres agriculteurs qui bossaient du matin au soir pour essayer de tirer une petite subsistance du pauvre terrain qu'il cultivait. Et ensuite, lorsqu'il a finalement réussi à se faire enrôler dans une caserne où on formait les scaphandriers, ben il a dû prendre en pleine face le racisme des Blancs qui était là. Oui, parce qu'il avait un autre défaut, en tout cas aux yeux des Blancs, c'est que c'était un homme de couleur. Mais cet homme s'est accroché. Il s'est installé dans un dortoir, et là on a commencé à se moquer de lui, voire à jeter son lit par terre. Ou même, les soldats qui étaient là en formation lui tournaient le dos, simplement parce qu'il avait une couleur de peau différente. Mais il s'est accroché. Et puis il a fait face à un instructeur, Robert De Niro, si vous connaissez le film. Et cet instructeur lui a mis les bâtons dans les roues, instant après instant, en lui demandant de faire des exercices beaucoup plus difficiles que les autres devaient suivre. Et il s'est accroché. Et il a tenu ferme. Et il a été jusqu'au bout. Et manque de bol, au milieu de sa formation, voilà qu'il se prend un accident. Il est sur le pont d'un bateau, il y a un énorme filin d'acier qui lâche, le filin gicle sur le pont du bateau, lui chope les jambes, et on doit l'amputer. Et il est amputé. Et on voit la scène, à un moment donné, il est à l'hôpital, il se morfond. Je ne sais plus si c'est sa fiancée ou si sa femme est là à côté de lui. Enfin, c'est la crise, il ne veut plus voir personne, il fuit tout le monde. Bref, son rêve s'écroule parce qu'aucun scaphandrier n'est embauché dans la marine américaine. Et puis au bout d'un moment, c'est l'électrochoc, il se réveille. Et puis pour pouvoir continuer sa formation et enfin devenir le scaphandrier qu'il a toujours voulu être, il doit passer un test. Et ce test consiste à porter sur lui un scaphandre de plusieurs dizaines de kilos. Ce n'est pas les tenues des scaphandriers qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, vous savez, c'était ces gros casques de cuivre qu'on vissait sur la tête avec des grosses épaulettes, un plastron, des bottes extrêmement lourdes, etc. Et cet homme, avec sa prothèse en bois, on lui demandait de faire 10 pas depuis le milieu de la salle jusque devant l'estrade où se trouvait le juré qui allait l'évaluer. Et cet homme a donc mis cette tunique. L'instructeur lui a dit « Mais tu te rends compte de ce que tu fais ?» Il dit « Oui, je me rends compte. » Et je vais y aller. Je vais y aller. Alors il a porté cette tunique, il a fait un premier pas. Je vous laisse imaginer comment c'était. Il était tremblant. Il tremblait de tous les côtés parce que le poids de ce costume était tellement lourd qu'il n'avait plus l'habitude de porter un truc pareil sur les épaules. Il était alité pendant plusieurs mois à l'hôpital, n'oublions pas. Et puis il fait un deuxième pas. Et puis un troisième. Et un quatrième. Un cinquième. Et il gagne le test. Et il est réhabilité dans l'armée américaine. Et il devient le premier scaphandrier afro-américain de l'histoire de la Navy américaine. Cet homme ne s'est pas laissé dicter sa vie par les circonstances. par la pauvreté de sa famille. Il n'a pas laissé sa vie être dictée par le « qu'en dira-t-on des autres ?» Il y avait en lui l'appel de sa destinée. Et il s'est dit « mais c'est ça que je vais faire et c'est ça que je ferai. » Point final. Aujourd'hui, on dirait « c'est non négociable. » Ben, pour lui, c'était non négociable. Mon frère, ma sœur, si cet homme avait élevé tous ses prétextes « oui, mais maintenant il y a ceci, ah, puis maintenant il y a cela, ah, puis il y a ça. » Jamais il y serait arrivé. Jamais, jamais. Bien des croyants aujourd'hui, lorsqu'ils font face à certaines difficultés, alors qu'ils savent que Dieu les appelle à quelque chose, disent « c'est difficile ». Mais mes amis, nulle part dans la Bible, il est dit que tout sera facile. Et pardonnez-moi une confession, mais je déteste ce chant du Djem qui dit « ma vie est un grand jardin de roses, c'est un grand jardin fleuri ». Mais le texte ne dit pas qu'il y a des épines aux roses. Hein ? Je pense que nous devons intégrer le fait que non, la vie chrétienne n'est pas une croisière sur un paquebot, piña colada et hamac, s'il vous plaît. Il y a des luttes, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Est-ce que ce sont ces choses qui vont constituer un prétexte pour toi ? Si c'est le cas, c'est dommage, parce que tu pourrais passer à côté de ta destinée. Lorsque je lis l'histoire de Gédéon, j'ai l'impression d'avoir affaire, vous savez à qui ? Un petit personnage noir avec une grosse coquille sur la tête. Calimero. Calimero. Pauvre de moi. Calimero. Le calimérisme peut nous frapper, hein ? Ça existe. Et ça peut s'accrocher à nos baskets. En fait, qui était cet homme, Gédéon ? Quand on regarde de près, très attentivement, je me suis rendu compte que c'est un homme craintif, très peu sûr de lui et très peu sûr de Dieu. Il est rempli de crainte, cet homme, à tel point que lorsque Dieu lui parle clairement, face à face, yeux dans les yeux, il est capable encore de dire à son Dieu, « Ah mais Seigneur, si c'est bien ce que tu as voulu dire, est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses, vraiment ?» Il remet en doute cette parole nette, claire, précise, carrée. Et lorsque Dieu lui dit « Mais je vais délivrer Madian au travers de ta main », il dit « Ok, ah, très bonne idée, mais d'abord je dois offrir une offrande, si c'est toi qui me parles. » On l'a lu. Et puis ensuite Dieu dit « Ben, tu vas délivrer Israël de la main de Madian. » Chapitre 6, verset 36, on ne l'a pas lu. « Mais si tu veux délivrer Israël par ma main, alors Seigneur, permets-moi de poser une toison. Hein ? On va se la jouer cool, Seigneur. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment toi qui me parles. » Et deux fois, il pose le signe de la toison. Gédéon n'arrive pas à voir l'évidence, alors que Dieu lui parle face à face. Et ses prétextes sont toujours accrochés à son cœur et à son esprit. Vous savez, si je prends l'ensemble de ce texte et tout le contexte qui s'y rattache, y compris et surtout la personnalité de Gédéon, je me dis que demander des signes à Dieu, quand il nous a clairement parlé, ce n'est pas forcément un signe de grande spiritualité. Moi, je pense plutôt que souvent, quand nous demandons des signes, c'est parce que nous craignons ou parce que nous sommes encore immatures dans certains domaines. Parfois, nous avons besoin, effectivement, quand il y a des choses très importantes, des décisions très importantes à prendre, on a besoin que Dieu nous parle d'une façon claire. Mais demander constamment des signes à Dieu pour savoir si c'est bien ceci, si c'est bien cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, lorsque j'ai commencé mes études de théologie, un prédicateur est venu, et ce n'était pas un prédicateur de grand renom, c'était le comptable de l'école biblique dans laquelle j'étudiais. Il s'appelait Gérald Branham. Et il disait la chose suivante à des étudiants d'un collège biblique, donc qui allaient devenir par la suite pasteur ou ministre en tout cas. Il disait la chose suivante, « Connaître la volonté de Dieu pour vos vies n'est pas une affaire d'ange qui vous apparaît ou de signe que vous pouvez demander à Dieu. Connaître la volonté du Seigneur, c'est une question de caractère. Si vous harmonisez vos vies sur les principes de la vie de Dieu, ce dernier vous conduira dans vos vies étape après étape. » Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi demander régulièrement des signes ou des confirmations de ceci, de cela ? La Bible ne dit-elle pas ? Même dans l'Ancien Testament, psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 84, verset 5, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Ce n'est pas simplement « Seigneur, excuse-moi, mais je m'enfonce, j'écroule. » Non, placer en Dieu son appui, c'est-à-dire c'est fonder sa vie, toute sa vie sur Dieu, observer ses principes, choisir d'obéir, faire des choix quand c'est nécessaire, eh bien cela, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Connaître la volonté de Dieu, c'est une affaire de caractère, c'est une affaire de maturité. Alors bien sûr, rien n'exclut le fait que lorsque nous avons besoin de connaître une chose précise, une direction précise, que nous demandions l'éclaircissement de l'un ou de l'autre frère mature en la foi. Mais si nous courons après les signes, en fait, nous courons même après des canards. J'ai envie de te dire, si tu veux que ta vie change, accroche-toi à ton Seigneur. Suis-le aussi fidèlement que possible. Serre sa parole sur ton cœur pour ne pas pécher contre lui. Et la transformation, les réponses que tu cherches vont se produire. La destinée dans laquelle tu es appelé à entrer va s'ouvrir devant toi. Gédéon, un homme craintif, peureux, un caliméro, mais par la grâce de Dieu, Dieu ne va pas mépriser cet homme limité et craintif. Dieu ne le méprise pas. Dieu ne le regarde pas de haut. Au contraire, la raison pour laquelle l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, l'interpelle et lui dit « Tu es un vaillant héros », c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire dans la vie de cet homme. Il sait comment il va le retourner, comment il va le chambouler. Il sait comment il va réussir à l'interpeller et comment il va être ce héros qui va libérer Israël. Il commence par lui dire « Va avec cette force que tu as ». Mais quelle est cette force? Est-ce que c'est la force physique qui lui permet de battre le blé? Pas du tout. La force de Gédéon, je crois, c'est la force du désir de voir les choses changer radicalement. Je pense que même si Gédéon était limité dans ce qu'il vivait, il en avait marre de ce qu'il vivait. Il en avait marre. Et parfois, Dieu a besoin de nous conduire jusque-là, jusqu'à ce que nous en ayons, pardonnez-moi, ras-le-bol de la situation pour nous faire réagir. Et parfois, il permet les circonstances comme ça, jusqu'à ce qu'on soit tellement pressé qu'on n'en puisse plus et qu'on se dise « Ok, maintenant c'est fini, je prends ma vie en main et j'y vais. » Comme tous les hommes de Dieu, Gédéon va avancer étape après étape. J'aime l'apôtre Paul notamment, lorsqu'il dit dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 11 et 12, j'aimerais juste vous lire ce texte, je trouve qu'il est absolument sublime. Moi, ça m'encourage aussi. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Il propose une récolte d'argent auprès d'une église. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance en tout et partout. J'ai appris. » Mes amis, si Paul a appris, c'est parce qu'avant, il ne savait pas. Non ? S'il a appris, c'est parce qu'avant, il ne savait pas et que maintenant, il a appris, maintenant, il sait. Oui, l'apôtre Paul a aussi eu besoin d'apprendre certaines choses. Et lui aussi, quand il a rencontré le Christ, il a eu une rencontre phénoménale et par la suite, petit à petit, sa vie a commencé à changer. Et il a appris un certain nombre de choses, de principes de vie, au fur et à mesure qu'il grandissait avec le Seigneur. Et ce qu'il a appris par-dessus tout, c'est en tout cas pas la méthode Coué. Vous savez, parfois, certains croyants nous disent « Oui, oui, mais si tu veux vraiment réussir, il faut que tu répètes plusieurs fois un verset et tu vas voir au bout d'un moment, ça va s'intégrer au fond de toi. » Mon œil, c'est faux. C'est pas la méthode Coué. La Bible ne nous invite pas à la méthode Coué. La Bible nous invite simplement à déposer nos prétextes et à croire, à reconnaître nos limites, à nous repentir et à croire. C'est tellement différent. C'est tellement différent. Alors, ce n'était pas la méthode Coué. Vous savez pourquoi? Ben voilà ce que Paul dit, verset 13. « Je puis tout par Christ qui me rend de plus en plus fort. » Je puis tout par Christ qui me rend de plus en plus fort. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. C'est simplement la force de Christ qui lui est transférée dans sa relation régulière avec lui. La force de Jésus lui est donnée au fur et à mesure de ses besoins. Et c'est comme ça que cet homme s'est construit. Pas à force de persuasion. Je suis sûr que Paul connaissait très bien le Tanakh, il connaissait très bien la Torah. C'était un expert. Mais face à Christ, il avait besoin d'apprendre. Et vous savez, il y a d'autres hommes de Dieu qui ont eu besoin d'apprendre. Je pense notamment à John Wimber. Quelqu'un a entendu parler de John Wimber, le fondateur des églises Vineyard? Cet homme avait grandi dans un milieu où on disait que les dons spirituels, c'était juste pour l'église primitive et qu'il s'était arrêté avec la mort du dernier apôtre. Bon, alors il avait ouvert sa petite cellule de prière, et voilà qu'un jour, dans le jardin de sa maison, son fils se fait piquer par plusieurs abeilles. Il se précipite récupérer son enfant, il le pose sur son lit, et le corps de l'enfant, ou le visage, j'ai plus les détails en tête, commence à gonfler. Et cet homme était désespéré, appelait une ambulance ou l'amenait quelque part, c'était presque plus possible. Mais là, son enfant malade, piqué par plusieurs abeilles, est en train de souffrir. Alors lui qui, évidemment, avait grandi dans ce milieu où les dons spirituels n'existaient plus, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est se mettre à genoux, fermer les yeux, de dire « Père, Mon père, mon fils est malade, il souffre, soulage-le s'il te plaît. Il ouvre les yeux, tout avait disparu. Ah, surprise, Dieu guérit encore. Tiens, c'est pas dans ma théologie. Ah ben oui, Dieu guérit encore. Et cet homme s'est dit, mais si mon fils a été guéri de cette manière, pourquoi est-ce que dans ma cellule de prière, on ne pourrait pas aussi prier pour les gens pour qu'ils reçoivent aussi des guérisons? Alors ils ont commencé à prier pour une personne, une deuxième, etc. Et ce qui s'est passé était absolument extraordinaire. Personne n'était guéri. Ah, il s'est posé des questions, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ils se sont dit, non, on va continuer. Il a persévéré, et au bout d'un moment, une première guérison, une deuxième, une troisième, etc. Mais entre-temps, il avait perdu presque la moitié de sa cellule de prière, parce que les gens s'étaient dit, mais c'est pas seulement le fils qui a été piqué par une abeille, c'est peut-être aussi le père. Mes amis, vous voyez, les choses se font progressivement. On a besoin d'apprendre. John Wimber, par la suite, a été utilisé par la grâce de Dieu pour ouvrir des dizaines d'églises en Californie, puis après, plus tard, dans tous les États-Unis. Et ce mouvement a été connu pendant des années comme étant un lieu de ressourcement, de guérison et surtout de louange et d'adoration à Jésus-Christ. Et des centaines, voire des milliers de personnes se sont converties grâce au témoignage de cet homme et puis bien sûr grâce à l'efficacité du ministère du Saint-Esprit, de guérison et de louange au sein de ces églises. Mais cet homme avait dû commencer par le commencement. Il avait besoin d'apprendre et il a appris sur le tas. Mais il a choisi d'apprendre malgré ses limites. Tu peux faire face à un certain nombre de limites. Et devant toi, peut-être qu'il y a une montagne. Ou peut-être qu'on pourrait dire la chose suivante. Peut-être que devant toi, il y a un éléphant. Tu sais comment on fait pour manger un éléphant? On le coupe en petits morceaux. Et tu manges un morceau après l'autre. Et au bout d'un certain temps, tu as avalé ton éléphant. Ça ne vient pas de moi, c'est Carlo Brugnoli, de Jeunesse en Mission, qui l'explique. Y a-t-il des montagnes devant toi? Ok, ben, fais un pas après l'autre. Accepte de relever les défis. Ne te cache pas derrière tes prétextes. Ne dis pas « Ouais, c'est difficile. » Mais oui, c'est difficile. Mais bien sûr, c'est difficile. Alors si c'est si difficile que ça, demande l'aide de quelqu'un. N'y va pas tout seul. Fais-toi aider. Fais connaître ta difficulté. Ne reste pas dans ton coin. Ce que j'admire, enfin, dans la vie de Gédéon, c'est que cet homme qui était si craintif, si peureux, si plein de limites, avec tous ses reproches, tous ses... prétexte plutôt, Monsieur Calimero en puissance. Cet homme a vécu une transformation absolument fantastique. Et Dieu peut faire exactement la même chose dans ta vie. À un moment donné, chapitre 7, verset 17, regardez ce que Gédéon fait, écoutez ce qu'il dit. Quand même, pour un homme qui était craintif comme lui, regardez un petit peu la transformation quelque temps plus tard. Il dit à son équipe qui est sur le point d'aller combattre, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. » D'un craintif, il devient un exemple. D'un homme craintif, il devient quelqu'un qui dit, « Voilà comment vous pouvez faire et je vous demande de faire la même chose. » Il est passé de l'autre côté du camp. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Lui-même qui se retirait et qui se cachait, il en vient à devenir capable de stimuler toute une équipe. Et non seulement ça, Juge chapitre 8, les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, mais que signifie cette manière d'agir envers nous, nanana. Vous lirez la suite, non seulement il se joint à son équipe, mais encore c'est toute une tribu qu'il se joint à lui. D'hommes mécontents, il arrive à les apaiser et ils viennent combattre avec lui. Et puis le chapitre 8, verset 4, alors ça c'est sublime. Moi j'aime ce genre de texte parce que ça me stimule. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours, fatigué. Laissez-moi dire cela en français courant, crevé, mais poursuivant toujours. Quelle transformation! Quelle transformation! Vous voyez pourquoi Dieu dit, lorsqu'il rencontre cet homme la première fois, vaillant héros? Parce qu'il voit ce qu'il peut faire avec cet homme. Et Dieu voit tout ce qu'il peut faire avec toi, même si toi tu ne le vois pas. À cette sœur qui me disait un jour à l'étude biblique, Dieu ne nous demande jamais de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire, nous pouvons répondre, Dieu ne nous demande jamais de faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas faits, et pour tout le reste, il nous appelle à grandir. Et ça change tout. Le Seigneur a choisi un homme replié dans ses retranchements. J'allais dire, parfois le Seigneur est drôle parce qu'il aime nous confronter exactement là où ça coince. Juste le truc qu'on aimerait cacher. Ah ben non, c'est là que Dieu nous interpelle. Mais mon chéri, je ne veux pas te laisser comme ça quand même. Hein ? Ça me fait penser à Christina Cordula, vous la connaissez ? Elle est capable de relooker des personnes, des hommes et des femmes, de leur donner une apparence complètement différente en l'espace d'une semaine. Hein. On les voit arriver au début de l'émission, ils sont ce qu'ils sont, et puis à la fin de l'émission, ben, on les voit complètement différents, bien habillés, fringants, sûrs d'eux-mêmes. Mais ça, c'est juste l'extérieur. Merci Christina pour l'extérieur. Mais Dieu veut nous changer de dedans. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est là que ça commence. Et c'est là que le Seigneur veut te rencontrer. C'est là qu'il te dit, je ne vais pas te laisser comme tu es, mon cher. Je t'aime trop pour te laisser comme ça. Si tu en as marre de vivre enfermé dans tes limites, quelles qu'elles soient, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'as pas besoin d'y rester. Tu n'as pas besoin d'y rester, il n'y a que toi qui peux décider. Alors à toi, tu peux te dire, ce matin, Seigneur, ou dans la journée, tu peux te dire, Seigneur, j'ai entendu quelque chose qui m'a dérangé sur certains points, mais d'un autre côté, je peux peut-être comprendre qu'il y a quelque chose de juste. Alors Seigneur, aujourd'hui, je veux changer. J'arrête de présenter mes prétextes. Je pose ma coquille de Calimero. Je laisse tomber tous mes « je ne peux pas ». Je ne peux pas, et je ne peux pas, et c'est difficile, et ceci, et ça. Oui, Seigneur, je les laisse tomber, et je vais écouter ce que toi, tu as à me dire. Conduis-moi vers ce que tu as en réserve pour moi, quelle que soit la manière dont tu vas t'y prendre. Et Seigneur, si j'ai peur, je ferai appel à quelqu'un avec moi. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas tranquille jusqu'à ce que ma prière soit exaucée. Et Dieu exauce ce genre de prière, je peux vous le garantir par expérience. Que Dieu vous bénisse.